Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Marc avec le frère Dominique Collin. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour mener avec le frère Dominique Collin une lecture cursive de l'Évangile de Marc. Aujourd'hui, troisième émission où nous souhaitons avant tout que vous puissiez trouver une correspondance entre ce que vous vivez et ce que vous lisez et entendez de la trace de cet homme, Jésus. Nous avons, en la deuxième émission, commencé à évoquer le baptême de Jésus. Et ce baptême est en deux parties, je vais vous le relire. « Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Deux parties dans ce baptême, frère Dominique.
Oui, donc bonjour. Donc nous sommes sur un récit que j'appelle donc une scène inaugurale et qui a donc son importance extrême pour comprendre ou en tout cas pour amener le lecteur, non pas à déchiffrer complètement ce qui va suivre, mais si vous voulez, c'est pour renforcer l'énigme de l'identité même de ce Jésus dont, je vous rappelle au verset numéro 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le lecteur, à cet endroit, au premier verset, ne sait toujours pas en quoi ou comment Jésus est fils de Dieu, sauf à en faire peut-être une nature abstraite ou y projeter peut-être trop vite son catéchisme. Parce que être fils de Dieu, c'est donc dire une relation qui s'établit ou qui est établie entre un fils et un père. Donc c'est déjà non pas prendre une identité figée de quelqu'un, une sorte de solipsisme de moi je suis le fils de Dieu, dire fils de. C'est tout de suite orienter évidemment la parole vers la relation dont elle est issue, cette filiation ou cette filialité, dont j'essaierai de montrer aussi tout au long de notre lecture cursive qu'elle est un thème majeur de l'évangile de Marc, qui nous apprend à nous aussi à devenir fils, c'est-à-dire à orienter notre vie pour qu'à la fois elle soit reçue, c'est-à-dire qu'elle se reçoive dans une logique du don, et qui devient par là même une sorte de mission ou de tâche. Quand je sais qui je suis parce que je reçois mon identité d'un autre, je deviens responsable. Je peux répondre de ma vie. Parce que je n'ai pas à façonner mon identité tout seul. Un peu comme dans la logique de la modernité qui veut que finalement chacun, à la force du poignet, et aujourd'hui à la force de la performance et de la rentabilité, se construise, devienne ce qu'il est. Mais dans la Bible, on se reçoit, c'est-à-dire que c'est d'abord l'espace d'un don et d'un accueil. Et c'est exactement cette scène inaugurale qui s'ouvre pour Jésus. D'abord, vous aurez noté que Marc nous montre quelque chose que personne n'a vu. Aucun spectateur n'a vu les cieux ouverts se déchirer et l'Esprit descendre avec une voix disant à un homme, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mon plaisir ». On ne parle pas de spectateur de cette scène. Ça veut dire que le lecteur est introduit dans l'intimité même du Fils, qui est le seul à voir ce qu'il voit, mais dans une vision qui d'abord dit que les cieux se déchirent. Donc il y a les cieux qui se déchirent, ça veut dire que c'est bien Dieu qui opère une sorte de fracture dans le réel pour montrer, ou plutôt pour faire voir ce qui est toujours là mais n'est pas vu, c'est-à-dire la réalité d'un Fils. Ce Fils qui est invisible, si on veut, aux yeux de la chair, c'est celui qui est le sens même de la destinée de tout être humain, devenir fils dans le Fils. Et je crois que c'est pour que nous entendions, nous aussi, cette parole du Père qui nous est adressée pour dire « tu es mon Fils bien-aimé », c'est-à-dire « tu es fils dans le Fils ». Encore faut-il l'entendre. Pour Jésus, il y a donc, dans cette scène inaugurale, une vision d'une parole qu'il faut écouter et je prie l'auditeur peut-être de noter, puisqu'ici on va tirer beaucoup de fils qui trouveront davantage de sens quand ils seront reliés à d'autres événements racontés par l'évangile de Marc, et notamment le récit de la transfiguration qui intervient, et ce n'est pas pour rien, à la mi-temps de son évangile, où là aussi une voix venue d'un ciel qui se déchire va dire à des disciples « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc là, c'est Jésus qui doit écouter pour lui-même la révélation de son identité profonde. Et plus tard dans l'Évangile, c'est les disciples et donc le lecteur à leur suite qui doit prêter l'oreille à cette même parole qui fait découvrir le Fils. Vous voyez comment il y a une construction très, très, très cohérente et très intelligente de l'Évangile de Marc. Là encore, on le redira sans cesse contre une lecture qui, pendant longtemps, a suspecté finalement Marc d'être un récit un peu grossier, le premier récit qui met un peu brutalement les faits sur les faits et raconte sans beaucoup de profondeur parfois ce qui arrive à Jésus. On voit tout de suite, dès l'entame de son évangile, dès le premier chapitre, qu'il y a une construction théologique absolument sérieuse. On n'en fait pas une construction rigoureuse au sens, je vais dire, systématique, mais dans la narration, il lance, vous voyez, depuis, nous avons seulement lu quelques versets, nous sommes là au verset 9 à 11, il y a déjà des thématiques profondes qui vont travailler tout l'Évangile et donc notre lecture. Il va falloir, pour le lecteur, rester bien attentif à tous les indices que Marc a déjà semés dès le départ pour ne pas en perdre et puis continuer à les enrichir au fur et à mesure.
Alors il y a ce baptême et puis ce moment d'intimité, et articulons la chose juste avec la scène suivante. Je lis au verset 12 et 13, « Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. » Je crois que c'est intéressant d'articuler ce baptême, ce moment d'intimité, d'une part, avec le désert. Que se passe-t-il dans le désert? On ne sait pas grand-chose. On sait que Jésus sort vainqueur, en tout cas.
Oui, c'est la deuxième mention, si on ne l'a pas repéré, du désert dans cet évangile de Marc. Pourtant, là encore, nous n'avons pas été bien loin, puisque nous avons eu la mention que Jean était dans le désert. Jean-Baptiste parut dans le désert au verset 4. Donc le désert est un lieu pour Jean-Baptiste comme pour Jésus. C'est presque le passage obligé. Que le désert soit un passage obligé au sens biblique, c'est évident, parce que je pense que tous les grands personnages de la Bible sont invités, que ce soit littéralement ou métaphoriquement, à cette épreuve du désert, qui donc dit à la fois un lieu géographique et qui est un lieu, j'allais dire, sans orientation, sans direction, un lieu où l'on peut se perdre, mais c'est surtout un lieu où l'on creuse, le manque, de sorte que Jésus, comme Jean-Baptiste, se trouve tout de suite mis dans la situation, pour les gens, venir chez Jean-Baptiste, c'est venir dans un lieu inhospitalier où l'on ne trouve pas une satisfaction immédiate à ses besoins. Pour Jésus, au début de sa mission, j'allais dire, toute grandiose soit-elle, il faut lui-même qu'il passe par l'épreuve du manque, parce que c'est seulement dans cette épreuve du manque que le désir s'ouvre pour recevoir d'un autre ce qui le fonde. Et c'est ce que l'on vient de lire avec la scène inaugurale du baptême. Donc, pour le dire autrement, dans le désert, je ne peux que, je vais dire, m'appuyer sur ce qui vient, et pour le peu que ça vient, soit du peu de nourriture, mais ça creuse la faim. Et la faim creuse ce désir d'attendre les choses aussi de l'autre ou des autres, de la providence ou de la vie. Et donc c'est un moment, en tout cas, lui aussi inaugural pour la mission de Jésus, qui, et ça c'est ce qui est très intéressant dans l'évangile de Marc, c'est qu'il n'a pas besoin de nous dire le passage par les trois tentations que Matthieu, lui, va déployer dans son évangile, parce que cette épreuve du désert, l'épreuve et la tentation de la puissance, est une épreuve et une tentation que Jésus va devoir surmonter, en tout cas pendant une longue partie de l'évangile de Marc. Donc si vous voulez, ce qui se joue dans le désert est métaphoriquement placé dans le désert parce que c'est la tentation de la puissance à laquelle Jésus va être confronté. Ça va venir de lui, mais ça va venir surtout d'autres qui attendent de lui une satisfaction immédiate des besoins. La foule, les possédés, les malades, tous ceux qui veulent le faire Messie, qui veulent le proclamer roi d'Israël, les disciples qui veulent un Messie qui va monter à Jérusalem pour instaurer son règne. Tous veulent un Messie, mais pas un Messie passé par le désert, pas par le manque, et dans un langage plus évangélique encore, pas par la croix. Donc c'est pour ça que cette scène placée au tout début n'est pas simplement anecdotique comme étant une sorte de passage où Jésus, au tout début, fait un petit tour, une excursion dans le désert. Non, c'est une scène qui nous montre ce qui va advenir dans la suite de l'évangile de Marc. Et c'est pour ça qu'elle peut rester de manière sobre, comme une sorte de liminaire que Marc place ici pour le lecteur en disant « Souviens-toi, tu vas voir que Jésus va encore être tenté par le Satan, c'est-à-dire l'adversaire. » Et il va même, Jésus, au chapitre 8, désigner Pierre comme étant Satan. Absolument. Et l'on voit que c'est peut-être fondamentalement ce Pierre qui est le premier des disciples et des appelés qui, dans sa mécompréhension totale du sens même de la vie de Jésus, c'est-à-dire de la logique du royaume, devient le premier Satan, c'est-à-dire l'adversaire, que Jésus va devoir, presque par la force, mettre derrière lui en disant « passe derrière moi ». Donc cette tentation de la puissance, c'est-à-dire d'être un messie politique ou un messie sauveur, c'est la tentation permanente de Jésus, mais dont l'évangile de Marc va nous montrer qu'il en sort victorieux.
La tentation de la puissance, nous allons le revoir, elle tisse effectivement l'évangile de Marc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bien souvent, dans le langage chrétien au sens large, le mot « manque », qui est ici est désigné comme fondateur par vous-même, et puis le mot « désir », ce désir qui doit être creusé, ce mot « désir » semble être en dehors de toute vie religieuse. Or, ici, elle est véritablement au centre de la vie de Jésus.
Oui, donc évidemment, je suis certains auteurs, et ils sont nombreux, qui ont, grâce aussi à leur connaissance des sciences humaines, et notamment de l'apport aussi de la psychanalyse, mais on peut penser déjà à Françoise Dolto, on peut penser à Marie Balmary, bien d'autres, Maurice Bellet, d'autres auteurs qui montrent que l'enjeu d'une vie humaine est toujours marqué par un enjeu du désir. Nous sommes des êtres de désir. Mais encore faut-il donc l'entendre dans son sens le plus fort, hein, ce désir de vie, ce désir d'être ce que l'on est, ce désir d'avenir, etc., de réalisation, ce qu'on va appeler, dans un langage peut-être plus biblique, un désir d'accomplissement, mais qu'il y a deux manières de vivre le manque. Soit on le comble immédiatement, en le saturant, en l'obturant, c'est la société consumériste, et en faisant de sa vie une sorte de bouche-trou permanent, ou alors on laisse la place au manque pour être un lieu qui est un lieu de disponibilité, de réceptivité, d'accueil au désir de l'autre. Désir dont il va falloir que celui qui manque juge si c'est un bon désir, s'il peut faire confiance ou non. Eh bien, le père, en parlant, en disant « tu es mon fils bien-aimé », dit le désir d'un père pour un fils dans l'agapé, qui est peut-être donc ce mot grec. Vous savez qu'il y a plusieurs mots grecs pour dire l'amour. Donc il y a Eros qui dit aussi quelque chose du désir, il y a Philia qui dit l'amitié, mais l'agapé, c'est un désir profond et inconditionnel de bienveillance. Donc le Père dit son désir de la plus radicale, de la plus extrême bienveillance pour un fils, et quand on est récepteur, c'est-à-dire quand on reçoit le don de cette bienveillance, il ne manque plus rien. C'est-à-dire il ne manque plus en termes de besoins qu'on cherche tout le temps à colmater et qui génèrent l'angoisse et parfois le désespoir. Donc, devenir fils, c'est recevoir tout ce désir d'un père qui veut que le fils soit fils.
Et je pense que ça peut éveiller des échos à tous ceux qui père ou mère, justement, et qui, par la bénédiction, véritablement, lancent leur enfant ou leurs enfants
tout à fait
dans la vie.
Et aussi rappeler que, malheureusement, un certain nombre d'enfants n'ont pas entendu ou n'ont pas pu entendre un père ou une mère, même qu'ils ne soient pas biologiques, pour dire
« tout à fait,
tu es mon fils bien-aimé, tu es fils, eh bien, vie.
Et choisis la vie.
Choisis la vie.
C'est le moment de faire une pause musicale avec Benjamin Britten, un extrait de la première suite pour violoncelle seul.
Thank you.
sur RCF avec Dominique Collin et Pierre-Paul Delvaux. Nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Marc. Nous venons de voir Jésus tenté au désert, vaincre Satan, et puis il va entrer dans la proclamation de l'Évangile en Galilée. Je vous relis ces deux passages. Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Frère Dominique, il y a beaucoup de mots-clés.
Oui, donc là encore, Marc met, il fait une sorte de résumé, de liminaire, qui donne en condensé à peu près le sens même de la mission, donc de la parole de Jésus. Donc on nous dit ce que Jésus va non seulement vivre à ce moment-là, mais c'est le sens même de tout l'Évangile proclamé et vécu. C'est pour dire, le règne de Dieu, il est là, parce que le temps est accompli, et donc les conséquences, changement de mentalité, métanoïa, et faire confiance à cette heureuse annonce qui nous dit que le royaume est là. Donc, évidemment, nous n'en savons pas assez pour que, j'allais dire narrativement, nous comprenions ce que ça change que le royaume soit là, à quels signes, quelles sont finalement les transformations agissantes qui vont faire d'hommes et de femmes des êtres nouveaux. Et c'est la suite de l'évangile de Marc qui va nous raconter cet effet, si l'on veut, du royaume. Puisque le royaume n'est pas une réalité, si l'on veut, objectivable. On le voit à ses effets, et des effets qui sont des effets de transformation, qui donc, pour une part, sont des effets de transformation intérieure, même si le monde biblique ne connaît pas une sorte d'antinomie ou de contradiction ou d'opposition entre intériorité et extériorité. Un changement intérieur va se manifester par un comportement, une attitude, une manière de vivre, une sorte de style qui va se voir. Mais somme toute, le royaume n'est pas une réalité objectivable que l'on peut désigner. Il faut pour le voir, d'abord l'accueillir, et l'accueillir implique donc une transformation intérieure qui fait que ce royaume va, même lorsque Jésus annonce qu'il est là, puisque c'est ça, je crois qu'on ne mesure plus tout à fait l'importance décisive et la nouveauté absolue que fut l'annonce par Jésus, non pas comme tous les prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste, de l'annonce future de l'avènement qu'on appelle eschatologique dans ce cas-là. L'eschatologie, c'est le discours sur les fins dernières. Donc c'est le jugement final de Dieu qui va faire venir le royaume. Et on attend ça pour un avenir qui n'est pas précisé, mais qu'on espère. Jésus dit, il est là. Enfin, il s'est rendu proche. Il y a une sorte d'expression qui dit à la fois sa toute proximité, et en même temps, il n'est pas là comme un objet. Donc comme il s'est approché, et c'est le royaume qui s'approche, et pas nous qui nous approchons du royaume. C'est le royaume qui vient, il est en train de venir, si l'on veut, et comme il est toujours en train de venir, il peut être une réalité absolument présente. Et c'est ce qui vient changer alors la donne de l'histoire, c'est-à-dire que le temps, la temporalité, devient, quand le royaume s'approche, devient un temps décisif. C'est ainsi que je traduis « les temps sont accomplis ». Pour ne pas dire que si on entend l'accomplissement comme étant la fin du temps, on ne comprendrait pas qu'il y ait du temps après l'annonce de l'accomplissement du temps. Or, nous sommes déjà 2000 ans après cette annonce, mais que tout temps de l'histoire, parce que le royaume est une option présente en 2015, de la même manière que ça l'était en 1515 ou en 30 après Jésus-Christ, fait que tout temps de l'histoire est, grâce à l'Évangile, un temps décisif. C'est-à-dire un temps qui n'est pas un temps neutre, qui n'est pas laissé à l'atermoiement, qui n'est pas laissé à une attente, je vais dire, de pure attente de futur. L'avenir le plus immédiat de l'humain, c'est-à-dire une option véritable de changement, elle est là, elle est présente, comme un don offert, qui demande donc l'accueil, la réception. C'est une attitude double de confiance et de métanoïa. Et donc, chaque fois que l'humain s'ouvre à cette offre du royaume, eh bien, le temps devient un temps autrement qualifié, puisqu'il entre alors dans le temps du royaume. Et ça nous permet, je crois, cette vision, ou cette lecture nous permet de sortir un peu d'une sorte de vision un peu mythologique et finalement un peu naïve de l'attente du retour du Christ que l'on peut aussi projeter dans un futur qui est de plus en plus long et puis on se dit, ben, est-ce qu'il vient venir ? Non, le Christ, d'ailleurs dans la Bible, on ne dit jamais qu'il reviendra, mais qu'il vient. C'est-à-dire, il y a un effet comme pour le royaume, il est toujours en train de venir. Ça veut dire qu'il est présent à celui qui accueille sa venue aujourd'hui. Et qu'il n'y a donc pas de différence entre le temps où je suis maintenant et dans 2000 ans ou 2000 ans qui me précèdent, chaque moment de l'histoire devient, par le royaume, un moment absolument décisif.
C'est le temps du commencement.
Et c'est toujours donc le temps du commencement.
Ou des commencements.
Des commencements, donc tout s'inaugure à nouveau. C'est même le don et donc l'accueil de la parole inaugurale qui fait que chaque fois s'inaugure le temps messianique.
Il y a une belle expression dans la philosophie allemande et qui dit « l'être a à être ». L'être a à être, il a, et être, ce n'est pas un verbe d'état, c'est un verbe de mouvement, en fait. Et donc ici, je pense que cet accomplissement, et puis surtout, peut-être, le règne de Dieu s'est approché. Donc il y a un mouvement, et puis ce mouvement, mais nous sommes appelés à le continuer. Si je
donc on entend la dynamique, on entend aussi une réalité, qu'on pourrait appeler une réalité en accomplissement, c'est-à-dire en devenir. Donc les choses germent, et donc il y aura plein d'images, notamment celle des paraboles, pour dire comment ce royaume, même si je n'en vois pas sa réalité pleinement et définitivement accomplie, n'en fait pas moins une réalité présente et agissante, même si elle prend les formes d'une graine de moutarde ou que sais-je. Mais c'est déjà là. Et ça, c'est vraiment l'annonce la plus inouïe que Jésus ait pu faire, puisque jusque-là, et toute la tradition biblique attendait bien entendu que Dieu accomplisse ses promesses et que le... Mais dire « c'est là, c'est maintenant, c'est un présent qu'il faut entendre avec le français dans son double sens », de cadeaux et de temps qui est offert pour celui qui s'y dispose. Et ça reste donc l'actualité la plus actuelle de l'Évangile, puisque même à l'heure où nous parlons et où nous nous adressons à vous, chers auditeurs, eh bien, ce temps devient le temps présent par l'Évangile du royaume.
Voilà. Avec tous ces équivoques, évidemment, autour du règne, autour du roi, nous aurons l'occasion d'y revenir, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, il y a des mots qui sont un peu usés par la répétition. Je fais allusion à la traduction à partir de la source Q, à partir de la Quelle, où on dit « mais fais-nous voir quel Dieu tu es ». C'est un peu ce programme-là.
C'est tout à fait ça, avec peut-être pas la nuance, mais j'apporterai ici une précision, c'est « fais-nous voir quel Dieu tu es », mais surtout, avec l'idée de règne, fais-nous voir comment toi, Dieu, tu agis. Parce que le règne dit l'activité de Dieu. Donc ne dit pas une forme de gouvernement, et ne s'oppose en tout cas pas à des formes de gouvernement qui seraient monarchiques ou démocratiques ou que sais-je, ou républicaines, c'est... Donc l'idée dans la Bible de règne ou de royaume de Dieu n'est pas un territoire, c'est la manière dont Dieu agit. Et donc si, et grâce à votre apport de cette traduction que je trouve très juste et beaucoup plus juste que ton nom soit sanctifié, c'est « dis-nous quel Dieu ou qui Dieu tu es », eh bien « que ton règne vienne », c'est « dis-nous ou montre-nous comment tu agis ». Et donc la proposition ou la parole de Jésus qui dit que le royaume ou le règne de Dieu s'est approché, c'est pour dire l'activité, Dieu agit, et vous allez voir comment Dieu agit. Ça, il y a des signes, je vais vous le montrer, par la parole, par les effets de transformation que ça va produire, par les gens qui se relèvent, par les malades qui vont bien, c'est que Dieu agit.
C'est ce que nous allons voir dans la prochaine émission, d'ailleurs, où on va voir Jésus qui choisit quatre disciples, et puis qui guérit encore. Et puis, le chapitre 1 se terminera par la guérison d'un lépreux, qui n'est pas n'importe quelle guérison. Nous allons véritablement le voir agir. Voilà, ce sera pour la prochaine émission. Merci, frère
Merci,
Dominique.
Merci beaucoup.
Au revoir.
À bientôt. Thank you.
Thank you.